Merci à tous de participer donc à ce 46e café virtuel. Donc il y a pas mal de monde qui devrait nous rejoindre encore. On va aborder en fait un sujet qui est la décarbonation du et par le numérique. Alors ce sera a priori, alors ça n'est pas la première fois qu'on en parle et ce sera surtout pas la dernière où nous en parlerons. Je pense même potentiellement nous aurons d'autres cafés virtuels sur le sujet. Là, cette fois-ci, on a décidé donc de prendre trois temps avec vous. Donc pendant les à peu près 45 minutes qui vont venir, et après nous aurons à peu près entre 10 et 15 minutes pour pouvoir échanger. Et vous pourrez échanger donc avec nos non pas deux mais trois intervenants même. Donc décarbonation due et par le numérique. En fait, ce matin, ce que l'on va faire, c'est vous présenter entre autres l'émission de l'adresse, mais aussi les plans, les aides, le contexte. Comment est-ce que France 2030 peut nous aider et comment s'appellent et se nomment les dispositifs qui peuvent aider les entreprises à se décarboner? Et puis Sébastien, donc qui nous, donc c'est avec Céline pour la première partie, et puis Sébastien Béclin, donc qui nous présentera le CIRID et qui se présentera lui-même. Et le CIRID, on en a parlé justement à l'instant avant que vous vous connectiez, qui est une organisation qui n'est pas toujours suffisamment connue et qui mérite amplement de l'être, d'où la prise de parole entre autres ce matin, parce qu'il y a un immense intérêt à découvrir ce centre d'information qui est basé pas très très loin de chez nous, à Saint-Étienne. Voilà, donc on va vous présenter, mais avant ça, on va démarrer avec Élodie et on va s'offrir pour démarrer une petite page de publicité, notamment pour le groupe numérique responsable. Donc Élodie Carpentier, je te laisse te présenter.
Merci Pierre-Antoine. Donc, je m'appelle Élodie Carpentier et avec David Matra et Gaël Delescaille, nous sommes co-animateurs du groupe de travail numérique responsable à l'ADIRA. En effet, les entreprises sont de plus en plus attentives à leur empreinte écologique, notamment leur empreinte carbone. Et de l'autre côté, entreprises, professionnels comme particuliers sont de plus en plus dépendants du numérique. C'est un secteur dont l'empreinte carbone augmente de manière exponentielle. Il y a des nouvelles technologies qui se développent sans cesse et on utilise le numérique pour de plus en plus d'usages. Donc, le groupe de travail numérique responsable, nous organisons des ateliers mensuels pour tenter d'explorer ce sujet un peu paradoxal avec des partages de bonnes pratiques, des retours d'expérience. Par exemple, le mois dernier, nous avons organisé une session autour des outils qui permettent de décarboner le numérique ou en tout cas de piloter l'empreinte écologique du numérique dans les entreprises. Dans 2 jours, le jeudi 14 mars, nous avons une fresque du numérique et le mois prochain, un thème qui est plutôt à la mode en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. On va explorer l'intelligence artificielle responsable. Existe-t-elle? Est-ce possible? Et fin juin, la date arrivera dans les prochaines semaines, un after-work avec le maître de conférence et philosophe Thierry Lhermitte.
Et puis, juste à noter aussi, donc on a, y a énormément de documentation en fait qui a été produite par le groupe à l'occasion des différentes interventions, etc. Toute cette documentation, elle est passionnante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors on est en train de réfléchir et retravailler à la manière de diffuser ces informations. Mais en tout cas, si vous avez besoin de documents associés à ce thème du numérique responsable, surtout n'hésitez pas à nous solliciter, solliciter les animateurs, et on fournira toute cette librairie qui est vraiment passionnante. J'ai pas mentionné, mais surtout si vous avez des questions, des interventions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire peut-être dans un premier temps dans le chat, et puis sinon, donc on prend 10-15 minutes à la fin de la session pour en parler. Et donc nous partons. Découvrir l'adresse, entre autres, avec Céline, donc qui me fait plaisir de revenir pour la deuxième fois dans un café virtuel. La dernière fois, c'était en septembre de l'année dernière, ou même un peu plus tôt même. On a parlé de France 2030,
Oui.
et là, on parle du dispositif un peu dédié à la décarbonation du secteur numérique.
Effectivement. Donc, Céline Serguillot, je travaille au service économique de l'État en région au sein de la DREETS, qui est une organisation qui est rattachée auprès de la préfète de région. Et donc, au niveau du secteur service économique, moi, je suis la filière du numérique, sous un peu tous ces aspects économiques, innovation. Et depuis l'arrivée de mon nouveau responsable de département, on est très engagé sur le sujet de la décarbonation, puisque il est à la manœuvre en tant que chef de service régional pour la DGE, pour être un peu pilote sur ces sujets de décarbonation de l'industrie, mais aussi évidemment de tous les secteurs qui sont marquants dans notre région. Donc, dans nos indicateurs d'évaluation personnelle, on va évidemment sensibiliser toutes nos filières à aller vers cette décarbonation. Alors, c'est vrai que au début, décarbonation du numérique, ça a pas posé de questions parce qu'il n'y a pas vraiment de fumée qui sort des usines numériques. Donc, il y a tout un travail qui a été fait au niveau national pour essayer de caractériser cette empreinte et d'essayer de voir comment on peut avancer là-dessus. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui en ayant plusieurs éclairages. Alors, tout d'abord avec une partie de vocabulaire. Ensuite, on abordera un peu les politiques publiques, ce qu'on appelle la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, et des déclinaisons qui sont au niveau des secteurs comme le numérique éco-responsable. On évoquera la plateforme transition écologique et puis après, évidemment, une partie de questions après l'intervention de Sébastien Béclin également. Donc, quelques mots clés pour comprendre le développement durable. Ce sont des abréviations dont on entend beaucoup parler. Les ESG, les critères environnement, sociaux et gouvernance. Donc ça, c'est un sigle qui est utilisé par la communauté financière pour désigner les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et qui sont les nouveaux piliers de l'analyse extra-financière qui compte de plus en plus pour évaluer la durabilité, la compétitivité des entreprises à moyen et long terme. SBTi, c'est les Science-Based Targets, qui concerne une sorte de label pour reconnaître les entreprises qui sont engagées dans un plan visant à réduire leur empreinte carbone. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est amené à entendre régulièrement. Et la SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone, ça, c'est une notion qui est purement française, puisque c'est quelque chose qui a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui est la feuille de route pour la France pour lutter contre le changement climatique. Cette première diapositive sur de quoi on parle quand on parle d'impact, vous avez sans doute entendu parler des fameux scopes 1, 2, 3. Et donc là, c'est une illustration qui montre en quoi consiste cet impact, d'où vient cet impact sur l'environnement. Donc c'est illustré avec le scope 1 qui concerne tout ce qui est émissions directes, les sources détenues ou contrôlées. Alors pour les entreprises qui produisent du numérique, souvent ce scope 1 se limite aux déplacements des émissions directes des flottes des entreprises ou les locaux d'utilisation. Le scope 2, c'est les émissions indirectes. Donc là, c'est toutes les émissions issues de la consommation d'électricité, de vapeur, de chaleur pour l'entreprise. Donc ça, c'est assez rare dans les entreprises numériques classiques, hormis les data centers qui ont sans doute peut-être la plus grande consommation par rapport aux autres types d'entreprises qui font par exemple que du développement. Le scope 3, ce sont les émissions issues des sources n'appartenant pas ou non contrôlées par l'entreprise. Et c'est plutôt là que se concentre l'impact du numérique, puisque on a à la fois l'utilisation des produits pour se servir de ce que vous développez. Donc là, on est sur tous les supports hardware, les ordinateurs, les mobiles, les serveurs, etc. Mais il y a aussi l'usage, évidemment, de ces outils numériques, avec des moyens qui sont plus ou moins énergivore, que ce soit sur des réseaux mobiles ou le cloud ou système fixe, on a des impacts qui sont assez différents. Les enjeux de décarbonation au niveau international, européen et français, c'est juste pour un peu vous faire le panorama de l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a eu un accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés. La déclinaison au niveau de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le Green Deal, et qui comprend cet objectif de Fit for 55, qui est de réduire de 55% les gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Et au niveau de la France, on a cette SNBC qui fixe des objectifs pour le secteur industriel avec 35% des émissions en moins entre 2015 et 2030 et moins 81% entre 2015 et 2050. Donc c'est au niveau du gouvernement, on estime que cet enjeu de décarbonation est aussi un levier d'autonomie énergétique et de résilience et que ça peut constituer pour les entreprises une opportunité économique et un facteur de compétitivité et de souveraineté. Maintenant, c'est plutôt un zoom sur l'impact strictement du numérique sur le. Ah non, pardon. L'industrie qui représente 20% des émissions du territoire national. Donc, c'est vrai que, bon, au premier regard, on pourrait se dire que le numérique n'est pas forcément le plus concerné. Sauf que ce qui est très alertant, c'est la croissance de cet impact qui est en constante accélération. Et donc, on a effectivement, à ce jour, 2,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. Mais à l'avenir, ça pourrait vraiment s'accélérer de manière exponentielle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attaquer au sujet maintenant. Pour détailler un petit peu plus, on a cette empreinte carbone du numérique. On est sur 17 millions de tonnes de CO2 par an, donc 2,5% de l'empreinte nationale, 10% de la consommation électrique française. On peut aussi mettre l'accent sur l'épuisement des ressources abiotiques naturelles, minéraux et métaux, puisque ça représente 27% de l'impact environnemental du numérique. Et on est sur des métaux extrêmement rares. Donc là, on cite l'or, mais vous avez d'autres métaux concernés. Les grands mantras à connaître, c'est effectivement que c'est le hardware, les équipements et la fabrication de ces équipements qui pèsent le plus dans la facture environnementale du numérique, puisque en gros, la part, c'est environ 80% qui concerne les équipements, la fabrication, et 20%, 22% selon les chiffres, hein, qui concerne l'usage, la distribution. Donc, on est assez, sur un équilibre très. Non, pas un équilibre, on est sur une concentration des émissions qui concerne des choses très importantes. On a cette présentation qui est un petit peu différente, qui montre dans le détail, l'impact par type d'utilisation. Donc, il y a les termines ou la fabrication. Et sur la gauche, vous avez les centres de données, les distributions de réseaux qui ont aussi un impact. Et ce que je vous indiquais tout à l'heure, ce qui est inquiétant, c'est vraiment l'accélération de cet impact. Et du coup, on a ce schéma qui permet de montrer que cette accélération pourrait passer aller presque jusqu'à 45% dans les prochaines années si on ne fait pas attention. C'est ce qu'on appelle le scénario tendanciel. Et si on est plutôt sur un scénario de sobriété, on pourrait arriver à diminuer. Donc, c'est un petit peu ce que les outils que je vais vous présenter après pourraient contribuer à faire. Sachant que ces scénarios, ce sont des hypothèses de travail qui ont été construites par l'ADEME pour évoquer par rapport à la décarbonation, à la transition des industries, plusieurs types de scénarios. En gros, des scénarios qui sont tendanciels, c'est si on ne fait rien, voilà quelle est la tendance. Des scénarios à mi-chemin et puis des scénarios de sobriété qui est le plus avantageux si on met tous les moyens pour atteindre des objectifs de numérique. de décarbonation et de pour changer les choses. Donc, ce qui peut aider, c'est ce qui a été construit, c'est d'abord une stratégie d'accélération numérique éco-responsable. Ça, c'est une sorte de texte qui a été rédigé il y a environ 2 ans et qui pose certains objectifs et qui présente certains axes de travail pour le gouvernement, pour que celui-ci puisse s'engager dans des actions permettant de réduire cette empreinte. Donc, les objectifs, hein, on est sur réduction de l'empreinte environnementale du numérique, développer aussi une offre compétitive de produits et de services et numériques plus sobres, puisque ça passe aussi par là, c'est-à-dire avoir les outils qui permettent de moins consommer. Et du coup, tous ces objectifs sont évidemment servent la stratégie nationale bas carbone au niveau global. Dans les axes, on est sur des axes qui sont assez divers. Le premier concerne plutôt l'amont, hein, c'est soutenir la recherche et le développement de méthodes et de référentiels pour enrichir la connaissance, pour évaluer cette empreinte environnementale et favoriser l'éco-conception et la sobriété des solutions numériques. Alors ça, c'est un volet qui est quand même très important parce que pour toute action, bah, c'est bien de commencer à mesurer. Et autant l'image que je prenais au début sur la fumée qui sort des usines, c'est assez visible. Pour le numérique, on est quand même sur des sujets qui sont assez complexes à évaluer. Et quand on parle, par exemple, d'analyse du cycle de vie, c'est vrai que c'est quelque chose de hyper complexe à décrire pour aller, par exemple, jusqu'à l'usager que les entreprises productrices ne maîtrisent pas du tout. Ensuite, favoriser l'innovation pour une économie circulaire dans le secteur du numérique pour promouvoir l'éco-conception, la sobriété, l'allongement de la durée de vie. Donc là, c'est pousser les acteurs, les producteurs du numérique à essayer de faire plus sobre. Donc ça passe par plein de moyens, utiliser des énergies plus vertes, mais aussi développer avec des codes plus sobres par exemple aussi avoir des logiciels qui sont plus durables dans le temps, qu'on ne soit pas tout le temps à mettre à jour, voilà, ce genre de choses. L'axe 3 concerne plutôt la formation, parce qu'effectivement, tous ces enjeux-là, ils doivent être pris en compte par des hommes et des femmes, et du coup, il y a vraiment un besoin de formation continue et initiale à ces sujets-là. Et puis, un axe qui est que sur l'acculturation et l'accompagnement des différents acteurs pour l'accompagnement de ces transformations. Cet été, on a eu une proposition de feuille de route de décarbonation du numérique qui a été faite à l'instar d'autres secteurs industriels. Ce ne sont pas des travaux en chambre qui sont faits par des administrations. Ce sont des comités de pilotage qui relient des spécialistes des sujets, donc en gros des industriels, des entreprises de services qui contribuent pour chaque spécialité de chaque secteur d'activité. Donc pour le numérique, il y a eu 5 groupes de travail. Un qui est plutôt sur les terminaux, le data center et cloud, l'autre sobriété et usage, les réseaux avec tout ce qui est notamment réseau mobile. Et le groupe 5 concerne plus ce que peut apporter le numérique pour la décarbonation d'autres secteurs. Parce qu'effectivement, le numérique est un outil formidable, notamment l'IA, pour mesurer et éventuellement prévenir ou faire des choses qui permettent de mieux analyser, de mieux piloter donc la ressource, les énergies. Donc, ça contribue aussi à la décarbonation de l'ensemble. 10 points de cette feuille de route, du plan d'action de cette feuille de route ont été définis pour avancer. Je ne vais pas reprendre les 10, mais en fait, voilà, c'est chaque chantier a visé à essayer de définir collectivement des moyens d'action pour améliorer et puis freiner cet impact du numérique. Donc, on est sur des sujets qui peuvent être apparentés à ce qui se passe dans l'industrie, comme par exemple à augmenter la part de matières premières recyclées. Le recyclage des terminaux, par exemple, en fait partout. Si, mais il y a aussi des sujets un peu plus soft power, comme promouvoir l'éco-conception, encourager la sobriété des usages et développer la formation. Ça, ce sont plutôt des choses, pas en dur, mais effectivement, de la grosse sensibilisation pour améliorer les choses. Un petit zoom sur ce type d'action, effectivement, sur le cycle de vie. C'est à la fois pour, par exemple, des data centers, améliorer l'efficacité énergétique. Quand on va sur l'éco-conception, c'est aussi agir contre l'obsolescence technique, mais aussi culturelle et psychologique, parce qu'on sait que, comme pour la mode textile, par exemple, il y a aussi une course à l'équipement pour avoir le matériel, le dernier mobile, le dernier cri. Mais ça, il faut être conscient que si on fait ça, bah, ça a quand même un impact assez, assez important. Un petit zoom aussi sur le groupe de travail 5, puisque effectivement, dans les chantiers, c'était quelque chose sur lequel les acteurs du secteur voulaient démontrer la part, non seulement en poids sur l'environnement, mais aussi qui pouvait être acteur de ce sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle Tech for Green, et avec des zooms sur un certain nombre de secteurs comme l'agriculture, la mobilité, le transport, les bâtiments, tout ce qui est BIM et Smart Building, ça peut être effectivement des technologies qui permettent d'améliorer ce secteur-là. Et puis, bien sûr, dans la collecte des déchets, on a tous entendu parler, par exemple, des optimisations de tournées pour faire tourner des camions seulement quand des bennes sont pleines. Voilà, ce type de choses qui sont très importantes pour avancer. Les efforts pour sensibiliser sur ces informations. Je suis allée trop loin. Merci. Il y a eu deux guides qui avaient été faits assez récemment pour aider les entreprises à se transformer de ce point de vue-là. Et depuis octobre ou novembre 2024, on a une plateforme qui est plus ergonomique, évidemment plus facile à prendre en compte parce qu'il y a un moteur de recherche qui permet de rentrer son SIRET et du coup de découvrir les aides et dispositifs qui peuvent correspondre à ces besoins, selon si c'est un besoin qui concerne l'énergie, le bâtiment, les déchets. Et du coup, c'est un vrai point d'entrée qui agrège toutes les aides sur le sujet. Donc, qu'elles soient issues de l'ADEME, de BPI France, de la CCI, des CMA. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est en cours de complétude, évidemment, par les dispositifs qui peuvent être locaux aussi. Et on est plutôt bien outillés dans notre région. Je voulais faire également un zoom sur un appel à projet qui est développé dans le cadre du programme France 2030, qui est porté par l'ADEME et qui est typiquement destiné aux entreprises du numérique ou des services numériques des entreprises pour soutenir l'effort que pourront faire les entreprises pour aller vers l'éco-conception du réemploi, du reconditionnement. Et c'est notamment pour ça qu'on a programmé ce café virtuel à cette date-là, parce qu'il y a une relève au 31 mai prochain. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des projets dans vos entreprises de se tourner vers ce dispositif. Sachant que ce dispositif fonctionne avec l'ADEME, qui est l'opérateur principal pour tout ce qui est transition écologique. Mais si vous avez besoin d'appui, par exemple, on a le pôle de compétitivité linéalogique qui peut vous appuyer pour l'exploration. Et puis, évidemment, l'ADIRA, Pierre-Antoine, donne tous les contacts nécessaires.
Oui, peut-être juste préciser. Donc, en fait, Minalogic va vous aider à y voir un peu plus clair sur les types d'enveloppes auxquelles vous allez pouvoir postuler, comment mettre en avant ou présenter votre projet. Et puis ensuite, voilà, donc vous pouvez commencer de déposer, si je comprends bien, moi, les projets à partir du 30 avril. des prédépôts, là, c'est ça?
Oui, il faut, en fait,
Jusqu'à fin.
oui. Alors, je reviendrai effectivement sur l'échéancier parce que l'ADEME a la particularité de procéder en deux temps, qui est un prédépôt qui précède un rendez-vous avec l'équipe technique pour en gros valider ou apporter des contributions pour améliorer le projet et avoir un défaut définitif qui est potentiellement dans les cordes, éligible, et après c'est plus de la sélection si c'est très concurrentiel, où il n'y aura que les meilleurs projets déduits. Mais en gros, ce dispositif permet d'être sur des projets qui sont complets et qui répondent bien aux attentes. Voilà. Les critères de sélection de ces projets, donc on est sur des sujets évidemment à caractère innovant, une capacité financière opérationnelle des entreprises, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une capacité financière, mais aussi que vous ayez une expertise sur les sujets que vous prenez ou évidemment avec les partenaires que vous pourriez avoir et les entreprises, qui a un impact social à la fois sur des emplois créés, maintenus et une possibilité aussi qu'il y ait une réplicabilité des dispositifs que vous pourriez proposer. Et une incitativité de l'aide, c'est-à-dire que si on a une entreprise qui pourrait faire sans, qui a beaucoup de fonds propres, ben c'est moins incitatif qu'une entreprise qui est moins dotée et avec laquelle c'est très important de donner une incitation publique. Donc effectivement, l'étape du processus, c'est de faire un prédépôt avec en préparant il y a une annexe 2 qui est un diaporama d'une trentaine de pages qui permet de présenter son projet à l'ADEME. Il faut prendre rendez-vous et ensuite il y a un dépôt complet au 31 mai. Et du coup, la sélection, elle prend à peu près 3 mois dans lesquels il peut y avoir une audition pour les projets qui sont présélectionnés. Ensuite, il y a une contractualisation qui peut prendre jusqu'à 6 mois puisque c'est enfin, jusqu'à 6 mois, oui. On sait que l'ADEME est assez chargée, mais voilà. Et après, c'est un suivi de projet qui va jusqu'à 3 ans.
Est-ce que tu aurais la possibilité d'illustrer, enfin des exemples de projets ou des choses qui sont susceptibles d'être prises en charge pour que ça puisse
Alors, par exemple, c'est utiliser soit des services qui sont intrinsèquement, qui font appel à moins de ressources en réseau, par exemple, ou des sites qui ne nécessitent pas de mise à jour trop obsolète, ou des matériels qui peuvent être créés en utilisant du recyclé ou qui peuvent être complètement démontables, des projets qui peuvent être sur du recyclage effectivement de hardware. Voilà, c'est un peu tous ces sujets-là. On n'a pas encore eu d'annonce sur les lauréats. Donc c'est vrai que je peux pas vous. La première relève n'a pas été encore. Je ne peux pas évoquer les projets qui sont dans le pipe. Mais voilà. Par contre, si vous avez des questions en plus là-dessus, il y a des ressources qui sont notées ici, notamment des webinaires et des diaporamas qui présentent dans le détail cet appel à projet économe et qui donnent des exemples. Là, j'ai dû aller vite, mais vous pouvez aller, je pense que, voilà, sur les aides financières actionnables, le dernier, vous tombez sur un lien vers un webinaire complet. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je crois que c'est la fin de ma présentation. Alors, je vais passer la parole à Clémastin.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à la présentation de Céline, n'hésitez pas à les poser. Puis, de toute façon, on prend un petit temps dans quelques minutes pour en reparler. Moi, ce que je comprends juste sur Econum, c'est que ça va concerner quand même, par exemple, les éditeurs, les fabricants de matériel, par exemple, ou les reconditionneurs ou les filières de reconditionnement. Et puis, ça peut être, au-delà de l'éditeur, ça peut être des agences ou
Oui,
celles et
structures
ceux qui
par appel
conçoivent
d'offres. Oui,
des systèmes.
qui peuvent acculturer, faire des actions de sensibilisation à
OK.
l'éco-conception et au numérique responsable. Il y a ça aussi.
Super. Sébastien, à toi la parole.
Si. Donc bonjour à tous et à toutes. Et merci de votre présence qui montre, comme le disait Pierre-Antoine tout à l'heure, de votre intérêt sur le sujet de la décarbonation du numérique. Je suis Sébastien Béclin, responsable de projet au sein du CIRID, que je vais vous présenter par la suite. Je tenais juste d'abord à remercier Pierre-Antoine et Céline de m'avoir invité à ce café virtuel. Deuxième étape, j'ai l'impression, de l'Auvergne-Rhône-Alpes Tour sur la décarbonation du numérique. Pour faire le lien un petit peu avec ce que Céline vient vous présenter, elle nous a donné le vocabulaire en fait et vous a présenté également les appels à projets sur lesquels vous pouvez candidater en fait pour obtenir du financement pour réaliser vos initiatives de décarbonation du numérique. Moi, je vais vous montrer un des outils qui sont à votre disposition de manière gratuite en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous permettre d'arriver en fait à cette décarbonation du numérique. Donc le CIRID, qu'est-ce que c'est? Si j'avais passé la slide, c'est ça. Le CIRID, c'est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Nous sommes une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2005 suite à une volonté de l'École des mines de Saint-Étienne. Nous sommes basés historiquement à Saint-Étienne, au sein de la grande usine créative, et nous avons pour mission principale de promouvoir le développement durable auprès des acteurs des territoires. Et pour ça, nous mettons en visibilité et en avant les nouveaux modèles économiques de coopération, que sont l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, l'écologie industrielle et territoriale, le biomimétisme, l'éco-conception et l'innovation à travers l'usage. Pour cela, pour atteindre cet objectif, le CIRID mène quatre types d'actions reconnues à l'échelle régionale, nationale et internationale. Nous produisons des connaissances, donc près de 60 ressources documentaires par an, en libre accès, à qui le souhaite, sous la forme de bulletins trimestriels, de fiches techniques, de guides, de rapports, de web-séries, sur toutes les thématiques et toutes les filières industrielles, mais qui adressent communément le développement durable et l'économie circulaire. Le CIRID conçoit également et expérimente des outils et des méthodes pour aider les dirigeants d'entreprise, les directeurs d'innovation d'entreprise, à promouvoir ou en tout cas à intégrer l'économie circulaire au sein même de leur projet de R&D à travers cet outil qui s'appelle CirQlite, qui est un freeware qui est également accessible gratuitement à tous ceux qui le souhaitent. Nous soutenons également les réseaux d'innovation régionaux, nationaux et internationaux à travers de la formation individuelle ou collective, à travers des conférences, des webinaires comme nous le faisons ici, ou à travers de l'animation territoriale. Et enfin et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement ici, le CIRID développe, gère et anime une vingtaine de plateformes collaboratives digitales, donc régionales, nationales et internationales. Ces plateformes collaboratives digitales donc, adressent le développement durable. Elles couvrent de nombreux territoires, comme vous voyez sur la carte ici à droite, en bleu clair. De manière globale, elles rassemblent une centaine de milliers de membres au niveau mondial, ce qui représente à peu près 12 000 organisations. Et en termes d'audience, toutes ces plateformes rassemblent à peu près 1,5 million de pages consultées par mois. Donc ici, je vous présenterai pas la plateforme Médiataire qui correspond au développement durable au niveau mondial, ni la plateforme Construction 21 qui adresse le bâtiment et la ville durable au niveau mondial également, qui est en 6 langues, le réseau de la francophonie, mais on va plutôt s'intéresser aux plateformes qui adressent directement l'économie circulaire. Donc il y en a 12 au sein du territoire national. Et ici, on va vraiment s'attarder sur la plateforme donc d'économie circulaire en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Eclaira. Donc Eclaira, comme je vous le dis, c'est la plateforme d'économie circulaire au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes Qu'est-ce que c'est, Clara? C'est tout d'abord un réseau d'acteurs qui sont engagés dans une démarche d'économie circulaire. Donc, quand on dit réseau d'acteurs, en fait, on dit très concrètement 1300 organisations sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont engagées dans cette démarche d'économie circulaire. Ici, je vous ai affiché en fait les 300 premières organisations. Je les ai pris au hasard, hein, elles ne sont pas sélectionnées, mais je pense qu'elles donnent une bonne représentativité ou richesse des membres qui sont présents sur cette plateforme. Donc, vous y retrouvez 40% d'entreprises, 20% d'associations, de fondations, de fédérations, 20% de collectivités locales et 20% de bureaux d'ingénierie, de bureaux d'études, de cabinets de consultants. Et ici, vous y retrouvez, sur ces trois, en tout cas sur cette slide, vous pouvez y voir des grands groupes hein, comme Eiffage, Elkem, Suez, Vinci, Saint-Gobain. Vous y voyez également des pôles de compétitivité comme Accelera, Minalogic, Tectera, Indura. Vous voyez également des plateformes techniques comme AccelOne, Provadems, donc des collectivités, comme je l'ai mentionné, la métropole de Lyon, de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Saint-Fond, et énormément de PME, énormément de start-up qui ont cette volonté de développer, d'avoir un modèle économique qui intègre pleinement l'économie circulaire. Donc, en intégrant la plateforme Eclaira, vous intégrez ce réseau. Et vous pouvez constituer vous-même, comme je vais vous présenter, des communautés. Vous pouvez dialoguer avec ces acteurs qui sont présents sur le réseau, échanger des données, des bonnes pratiques, faire des retours d'expérience, etc. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant de manière concrète. Donc, si vous allez sur la plateforme Eclaira, vous tombez sur cette page qui vous invite en fait à faire partie directement du réseau, à rejoindre donc ces 1300 organisations qui sont déjà présentes, à obtenir de l'information sur la soixantaine d'événements qui sont organisés en région sur la thématique de l'économie circulaire, à consulter les plus de 300, on est à 380, je pense, retours d'expérience publiés par les organisations sur ce réseau sur la thématique de l'économie circulaire. Donc, une fois que vous êtes inscrit hein, de manière totalement gratuite, il n'y a aucun frais, vous arrivez sur cette page. Et sur cette page, vous avez tous les articles qui sont à la une. Le focus qui adresse ici l'utilisation de l'eau dans l'industrie, les derniers articles qui concernent l'économie circulaire qui sont publiés sur la plateforme, l'agenda des événements, toutes les publications qui ont été réalisées par le CIRID, mais également par les membres, les communautés d'acteurs qui se sont rassemblés de manière naturelle sur cette plateforme, sur laquelle vous pouvez venir dialoguer, obtenir des informations, etc. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à votre espace personnel qui est en haut à droite, avec un espace hein, qui vous est pleinement dédié. Vous pouvez voir les contributions que vous avez réalisées, parce que c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Il vous est possible de vous-même, en fait, publier des événements, de publier des ressources, de publier du contenu. Tout à l'heure, Pierre-Antoine disait, mais mince, on a une librairie complète sur le numérique responsable. Eh bien, je vous invite à la publier sur la plateforme Eclaira afin de la diffuser le plus largement possible au réseau de l'économie circulaire sur le territoire de la région. Vous pouvez également voir vos messages que vous avez tenus, les communautés auxquelles vous faites partie, également les plateformes auxquelles vous êtes abonné. On va voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Eclaira, c'est seulement une des 12 plateformes national. Et vous avez cette barre d'onglet, en fait, tout en haut, qui vous permet de vous rediriger vers les différentes ressources de la plateforme Eclaira. Donc, les actualités de l'économie circulaire sur le territoire de la région, l'agenda des événements, les appels à projets, qui, j'espère en tout cas, reprendront bientôt Econom également pour le présenter au plus largement sur les acteurs du réseau. Mais vous pouvez également, comme je le disais, publier vous-même votre propre actualité. Bien sûr, c'est soumis à modération, on ne publie pas n'importe quoi. Mais c'est possible de réaliser ou de publier votre événement si jamais vous avez, par exemple, un café virtuel, je prends un exemple, ou un webinaire très, très concret, prochainement, et que vous souhaitez directement adresser ce réseau de l'économie circulaire pour en faire profiter un maximum de gens. Vous avez également accès juste après aux initiatives. Donc ici, vous avez accès en fait à toutes les initiatives qui ont été recensées par le CIRID donc sur en région Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les initiatives d'économie circulaire. Et si vous cliquez dessus, vous êtes tombé sur cette carte qui est une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur laquelle sont dispatchées en fait les initiatives, les retours d'expérience en économie circulaire sur le territoire. Vous pouvez lancer des recherches sur des thématiques particulières comme numérique par exemple. Vous pouvez les filtrer par état d'initiative, vous pouvez les filtrer par pilier de l'économie circulaire, par secteur d'activité, et ainsi avoir accès aux 380 initiatives qui sont recensées actuellement sur le territoire. Tous les domaines d'activité sont représentés au niveau des retours d'expérience. Donc c'est écrit en tout petit, c'est assez loin pour moi, mais la construction, la mobilité, l'agriculture, je pense, la chimie, l'énergie, etc., j'en passe. Tous les piliers de l'économie circulaire sont également représentés. Toutes les ressources également qui sont utilisées sur le territoire sont représentées. Bien sûr, historiquement, on a des ressources qui sont plus utilisées que d'autres sur notre territoire. Hein. C'est dédié déjà à la maturité de certaines filières industrielles sur la thématique de l'économie circulaire, mais aussi à cette culture, en tout cas, à cette historique qu'a la région sur certaines filières, comme notamment le plastique, bien évidemment le textile, le papier carton, etc., qui sont extrêmement développés de manière culturellement et historiquement sur notre territoire. En faisant une recherche simple sur la cartographie que je vous ai montrée, là j'ai tapé numérique. Donc on obtient malheureusement que 16 initiatives, ce qui montre un peu la maturité également de la filière sur le sujet. Hein. Donc ce qui est plutôt une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que ça va vous permettre à vous, acteurs des territoires, de venir poster vos propres initiatives et de venir faire gonfler ce chiffre. Et dommage parce que ça permet un peu moins de venir nourrir les acteurs. Mais on va voir que c'est juste une partie pour l'instant. Donc ici, par exemple, si je m'intéresse à ce qui se passe à Grenoble, j'ai cette initiative qui s'appelle Les outils numériques au service de la performance énergétique, qui est Paul-Louis Merlin, je pense. Et si je clique encore une fois dessus, je peux avoir accès à toute la description de cette initiative, c'est-à-dire qui l'a portée, où est-ce qu'elle se trouve, quel pilier d'économie circulaire elle représente, quels ont été les freins, les leviers qui ont permis de la mettre en place, quelles sont les ressources disponibles, quelles ont été les étapes clés. Quels ont été les retours qualitatifs de cette initiative. Et je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire je peux voir qui l'a modéré au sein du CIRID et je peux voir qui l'a posté également. Ici, on voit que c'est Véronique Fischer, qui fait partie de Schneider Electric. Et donc, cette personne est inscrite depuis 2021, je pense. Je peux rentrer en contact avec elle, je peux lui envoyer un mail en direct, je peux la suivre également pour savoir si elle va venir développer encore une fois ces initiatives-là sur la plateforme. En lançant également une recherche globale sur l'ensemble de la plateforme, j'ai mis juste numérique, hein, je suis tombé sur 819 résultats, 478 actualités, donc 16 initiatives, 2 documents, 15 organisations. Donc, il montre un peu la richesse de la plateforme Éclaira. On adresse ici uniquement le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous regardez tout en haut, l'icône s'appelle Le Réseau. Vous avez accès à toutes les autres plateformes d'économie circulaire régionale. Donc, génie.ch, qui adresse la République et les cantons de Genève, économiecirculaire.org, qui est la plateforme nationale, Recita, qui est la plateforme de Nouvelle-Aquitaine, donc Grand Paris Circulaire pour l'Île-de-France, Québec Circulaire pour le Québec au Canada, Collectif Grand Est pour le Grand Est, bien évidemment, Cyclope pour l'Occitanie, le réseau précis, je pense, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne circulaire et Nessy pour la Normandie. Et tout cumulé, si on lance la même recherche du numérique, on aboutit à 5140 résultats, 2262 actualités, 374 initiatives, 136 documents, 800 organisations au niveau régional, enfin, au niveau national qui sont recensés sur l'ensemble de ces plateformes. Donc ça, enfin, j'essaie de vous démontrer ici la richesse de la documentation et de ce que vous pouvez, des ressources qui sont disponibles à travers les plateformes qui sont opérées par le CIRID et qui adressent directement l'économie circulaire sur les territoires. Ensuite, vous avez accès donc au réseau économie circulaire en région, donc tous les membres, les organisations, les communautés que vous pouvez créer vous-même. Hein, si vous pouvez. C'est très possible de créer une communauté décarbonation du numérique au sein de la plateforme même pour adresser directement ce sujet en direct. Toutes les ressources, les outils qui sont publiés par le CIRID, mais également par les membres, donc les bulletins, les fiches techniques, les articles, les reportages, les outils, les guides, les vidéos, les web-séries, tout ça, c'est en accès libre sur l'ensemble des sujets pour l'économie circulaire. Et également, tous les articles qui sont publiés par les membres, donc 200 articles par an. Ensuite, si vous êtes intéressé plus pour avoir des données, on va dire, globales sur les réseaux économie circulaire en région, vous avez cet onglet-là. Et je pense qu'on... J'arrive également, moi, à la fin de ma présentation. Juste quelques mots pour vous présenter le programme RELIEF, qui est le programme régional d'innovation des entreprises par l'économie de la fonctionnalité, qui est piloté par le CIRID, également par le Centre des jeunes dirigeants, le CETIM, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui permet à tout acteur territorial, entreprise qui souhaite varier son modèle économique ou faire un essai sur un nouveau mode de modèle économique et le FC, de venir concevoir à travers des séminaires collectifs et des accompagnements individuels, finalement une offre de services et de venir les tester auprès de un ou deux clients. Donc c'est un programme qui a commencé fin septembre, qui se poursuit toujours, il y a encore quelques places. Au sein du numérique, on accueille deux entreprises cette année, Systen, notamment, et ID. Donc, si vous les connaissez, n'hésitez pas à leur en parler ou poser des questions, savoir comment ça se passe, le programme RELIEF, ou directement venir nous rejoindre. Et je profite également pour faire moi-même ma page de publicité avec la campagne d'adhésion du CIRID qui a été ouverte il y a quelques jours. Donc, si vous souhaitez rejoindre un réseau de 100 000 membres sur l'économie circulaire, le développement durable, si vous souhaitez partager votre engagement sur ces thématiques, Si vous avez envie de devenir acteur du changement, de l'innovation, de la préservation de la planète et des générations qui nous suivent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au CIRID. Vous avez un lien directement d'adhésion sur notre site internet ou là directement sur ILOSO. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention.
Merci beaucoup, Sébastien. Ce que je note notamment dans vos deux présentations, et ce qui est super, c'est de voir que en fait le sujet est quand même intéresse notamment les pouvoirs publics. Il y a des dispositifs qui existent à l'échelle nationale et qui sont pertinents avec une agence qui est missionnée avec l'ADEME, et puis des acteurs entre l'ADRETS et puis les pôles de compétitivité qui peuvent aider, accompagner les entreprises à se lancer, faire valoir les initiatives et pas uniquement les autofinancer, parce qu'il y a aussi ça, donc il y a une incentive, on va dire, de cette initiative-là, ça c'est super. Et puis cette dimension-là, alors je ne sais pas si certaines personnes connaissaient le CIRID dans les, j'allais dire dans la salle, mais dans la salle virtuelle, si vous connaissiez, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est de voir ces plateformes, parce qu'il n'y a pas que le numérique, et on voit bien. Alors ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour constituer un centre de ressources documentaires complet, pertinent, dédié au numérique, mais que par ailleurs, en tout cas, il y a ce type de plateforme et d'initiatives qui sont super. Moi, je me suis un petit peu baladé sur le site, justement. C'est absolument génial. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont quand même drôlement encourageants. Et puis, écoutez, on va terminer sur la prochaine date. On se retrouve le 11 avril. On va parler résilience avec Vanessa Delcourt, donc qui est coach, et on va parler des résilience, et à savoir comment est-ce qu'en tant que manager et avec nos équipes, nous pouvons toujours être résilients face aux épreuves, aux difficultés, aux crises, aux changements organisationnels, à toutes les difficultés que nous pouvons être amenés à rencontrer.
Merci à tous. Beaucoup. Merci, au revoir.